quand j'y étais, j'avais l'impression d'être un peu le gardien de l'hôtel dans Shining. Là, j'avais l'impression d'être Jack Nicholson et de devoir écrire un livre dans un endroit abandonné. Au bout d'un moment, ça jaillit, quoi. Tu t'y mets et puis il y a tout qui sort. Et donc, c'est devenu une méthode de travail. Maintenant, j'ai besoin d'aller dans des endroits que je connais pas.
Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, maintenant, ils ont une voix. Après toutes ces semaines de confinement contraint, les chroniqueurs de Puzzle s'intéressent cette fois à l'isolement volontaire. L'éloignement peut être une formidable source de création pour les artistes, enfin, jusqu'à un certain point. N'est-ce pas, Jack ?
J'ai un nouveau très gros roman en préparation et 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande.
Pour certaines personnes, la solitude et l'isolement peuvent poser un véritable problème.
Pas pour moi.
Le compositeur de musique électronique, Ron, est un amateur des résidences artistiques exilées. Se retrancher du monde fait désormais partie de sa méthode de travail. Pour en parler avec lui, je lui ai rendu visite dans son studio à Montreuil. Il était temps, le musicien est en train de faire ses cartons et de remballer ses machines. Après Berlin, Dreux et Montreuil, Erwan Castex, de son vrai nom, aucun lien de parenté avec le Premier ministre Jean Castex, précisons-le, déménage cet été pour la Bretagne avec sa famille. Dans ce petit studio, situé au premier étage de la salle de concert La Marbrerie, l'artiste se sentait pourtant bien. L'endroit est lumineux, le voisinage chaleureux. C'est ici qu'il a finalisé son dernier album, le sublime Room with a View, sorti au mois d'avril, qui est aussi la bande-son du spectacle homonyme, créé pour le Théâtre du Châtelet, avec la compagnie de danse marseillaise La Horde. Cette modeste pièce avec vue sur cour, qu'il s'apprête à quitter, ressemble beaucoup à la chambre de bonne parisienne où il a débuté ses expérimentations sonores.
J'ai commencé à faire du son, moi, dans ma chambre d'étudiant, en fait. Vraiment, disons que oui, ça a commencé à devenir sérieux quand j'étais à la fac de ciné, que je vivais dans une petite chambre d'étudiant au 7e étage d'un immeuble haussmannien, là. Donc j'étais vraiment sur les toits. Et c'est là que j'ai commencé à faire du son. Et c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs de ce lieu qui était minuscule, hein, ça faisait 9 mètres carrés. C'est la petite chambre d'étudiant avec la douche à côté de la plaque chauffante et du lit. Tu pouvais tout faire du lit. Et puis voilà, donc j'ai un très bon souvenir de ce lieu. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand je reviens dans ce studio qui a à peu près la même superficie, un peu plus grand quand même, mais je retrouve la même énergie. Je déménage dans une semaine, là. Je déménage en Bretagne.
Et tu vas où, alors, en Bretagne?
Je vais m'installer en Ille-et-Vilaine. C'est vraiment une jolie petite ville, juste au bord de la mer. J'ai trouvé une super petite maison. Voilà, le petit rêve, hein, le petit bleu, avec un jardin qui a vue sur mer et tout ça. C'est une jolie maison avec un espace dans lequel je vais probablement faire mon studio. J'ai quelques doutes là-dessus parce que vraiment, ça fait quand même des années que j'aime bien différencier la vie familiale et le travail, j'allais dire. Enfin, j'ai toujours voulu avoir un studio en dehors de la maison. Je suis pas très home studio, quoi. Mais là, bon, voilà, c'est un bel espace et tout. Donc, je vais essayer. Et puis, si je me rends compte que ça marche pas, si j'arrive pas à faire du son avec mes enfants dans les pattes, je trouverai un lieu un peu plus loin.
Tu aimes bien aussi partir, t'éloigner, t'isoler dans des lieux, ça peut être des chambres d'hôtel, je crois aussi, pour trouver l'inspiration, pour être vraiment concentré dans le travail, la composition. C'est ton processus de création aussi, ça, d'aller chercher la solitude et l'isolement?
Ben ouais, c'est vrai, c'est devenu un peu ma méthode de travail depuis, j'allais dire depuis le troisième album, parce que le premier, je l'ai fait dans ma chambre d'étudiant. J'avais même pas conscience que je faisais un album, en fait. J'avais pas encore de label, je faisais de la musique et puis, in fine, à écouter ma musique, le label in fine, il m'a proposé de sortir un disque. Le deuxième, je l'ai fait à Berlin, dans un gros bâtiment industriel dans lequel il y avait plein d'autres studios, plein de musiciens. C'était un truc très euphorisant pour faire de la musique. Et puis après, en fait, c'est vrai qu'à partir du troisième album, j'ai réalisé que j'avais besoin de m'isoler, quoi. J'allais dire de m'éloigner un peu de ma famille, de mes potes, de me couper un peu du monde, de m'isoler. C'est aussi un truc qui vient de vraiment une méthode de travail qui vient de mon pote Alain Damasio, hein. On l'entend sur mon morceau Bora qui dit faut que tu t'isoles, faut que tu t'isoles.
Si tu t'isoles, quoi, tu France, ça veut dire isole. Isola, Lille, quoi.
Dreux, je m'étais fait un studio chez moi, du coup. J'avais un home studio, j'étais super content d'avoir fait un beau petit studio chez moi. Et je me suis dit, ça va être génial, quoi. Et puis, en fait, j'arrivais pas à bosser. J'avais envie d'aller voir, de jouer avec mes enfants. J'arrivais pas. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris l'initiative de prendre un ou deux synthés et de partir loin, de m'isoler, de me couper un peu du monde. Donc effectivement soit dans des chambres d'hôtel, souvent en Bretagne, hein, mais pour me retrouver seul face à moi-même et faire une espèce d'introspection. Et là effectivement les sons sortaient beaucoup plus facilement. Il y avait aussi ce côté, c'est marrant, c'était aussi aller chercher un peu d'ennui, parce que encore une fois dans une petite vie de famille, finalement tu t'ennuies jamais, il y a plein de choses à faire, les enfants qui te sollicitent vachement, et puis voilà, et puis les amis qui veulent boire une bière, enfin plein de choses et tout, et t'as pas le temps de t'ennuyer. Et puis moi, plus ça avançait, les albums, les concerts et tout, et plus j'étais sollicité, des demandes de collaboration, des concerts, des trucs, et du coup pas beaucoup de temps pour s'ennuyer. Et finalement l'ennui, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était une grosse source de créativité pour moi, quoi. Quand j'ai commencé à faire du son étudiant, c'est parce que je m'emmerdais, en fait. Je me souviens, une fois que j'avais fait un peu la fête avec les copains et tout, et que je rentrais un peu éméché parce qu'on avait bu, j'avais pas de copine, j'étais chez moi, je m'emmerdais, et puis je faisais du son toute la nuit, des nuits blanches à faire du son. Et voilà, donc c'est vrai que ça venait souvent de... C'était pour s'occuper, quoi, en fait, hein, pour combler un vide, aussi pour lutter contre des angoisses et tout. Enfin, c'était une méthode, plutôt que de regarder la télé, je faisais du son. Et là, c'est vrai que quand je pars tout d'un coup dans un lieu que je connais pas, parce que c'est souvent ça, hein, l'idée, c'est d'aller dans un petit bled que je connais pas. Bon, par exemple, une fois, je m'étais dit, je vais aller en Bretagne, mais un endroit où je suis jamais allé, j'ai choisi Roscoff, j'ai trouvé un petit hôtel qui était une espèce de petit hôtel pourri, mais qui avait vue sur la mer, effectivement. C'était une petite chambre, pas très propre, mais avec une magnifique vue sur la mer. Donc, j'ai installé un petit bureau devant la fenêtre, et puis j'ai installé mon matos. J'ai mis 2-3 jours avant de rentrer dedans. Je passais par ce truc d'ennui où je marchais dans Roscoff et tout. Et puis au bout d'un moment, ça jaillit, quoi. Tu t'y mets et puis il y a tout qui sort. Et donc c'est devenu une méthode de travail. Maintenant, j'ai besoin d'aller dans des endroits que je connais pas. Là, pour ce dernier album, Room with a View, c'est le Centre des Monuments Nationaux qui m'a proposé de travailler dans un de leur lieux historiques. Et j'ai choisi la maison de George Sand. Et c'était génial, quoi. C'était génial. Je me suis retrouvé dans cette maison vide, mais en même temps habitée de fantômes, puisque c'était donc la maison de George Sand. C'était un endroit où il y avait plein de créativité. Elle recevait beaucoup. C'était un truc très mondain. Elle recevait plein d'écrivains, d'artistes, de peintres, de musiciens. C'était la maîtresse de Chopin, et Chopin venait presque quasiment la moitié de l'année chez elle pendant une dizaine d'années pour composer. Je crois qu'il a fait plus de 2/3 de son œuvre là-bas. Donc c'est un endroit qui était chargé comme ça de fantômes, et en même temps très calme. Quand j'y étais, j'avais l'impression d'être un peu le gardien de l'hôtel dans Shining. Là, j'avais l'impression d'être Jack Nicholson et de devoir écrire un livre dans un endroit abandonné. Et en fait, c'était hyper inspirant. Il y a plein de choses qui se sont passées pour moi là-bas. Donc oui, c'est chercher des lieux comme ça, inspirants, calmes en général. À chaque fois, je me pose la question, mais est-ce que je pourrais pas m'installer là, Roscoff? J'y ai pensé. La maison de George Sand, elle se trouve dans le Berry, une région que je connaissais pas du tout de la France, à Nohant, dans un petit bled au milieu du Berry. Je suis revenu et j'ai dit à ma copine, non mais faut absolument qu'on aille acheter une maison, qu'on aille s'installer là-bas, c'est magnifique, il y a des forêts incroyables. Et on y allait, hein, on a regardé, on a visité, puis finalement on l'a pas fait, mais je m'attache vachement à ces lieux-là.
Et ces lieux que tu recherches pour leur calme, est-ce qu'ils t'inspirent, est-ce qu'ils transpirent aussi dans les morceaux d'une certaine manière?
Carrément. Ça s'impose de manière vraiment naturelle, quoi. C'est pas une, je me dis pas je vais m'inspirer de ce lieu, enfin c'est pas du tout le but, hein. Mais ça s'impose, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cet album Room with a View que j'ai composé dans la maison de George Sand, je te parlais de Chopin, et il y a des petits clins d'œil à Chopin dans l'album qui sont disséminés comme ça dans l'album. Des petits clins d'œil à Chopin, des clins d'œil, ça peut être aussi dans les titres. Il y a un morceau qui s'appelle Sophora Japonica, c'est le nom d'un arbre qu'on trouve dans le jardin de George Sand.
sur l'album, il y a aussi un titre qui s'intitule La Marbrerie. C'est quoi? C'est un hommage à ce lieu?
Ouais, c'est un double hommage. C'est marrant. C'est La Marbrerie, c'est un hommage à ce lieu, La Marbrerie, donc cette salle de concert dans laquelle on est. Enfin, dans laquelle se trouve mon studio. Et puis, La Marbrerie, c'est aussi le décor, enfin le lieu dans lequel se déroule le spectacle que j'ai créé avec La Horde, qui a été joué au Châtelet, et qui se passe en fait dans une marbrerie, c'est dans une carrière de marbre, plutôt, c'est pas une marbrerie, c'est plutôt une carrière de marbre. Mais voilà, là, ici, c'est vrai que La Marbrerie, cette salle de concert, donc c'était une ancienne marbrerie où on travaillait le marbre, et voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, quand je fais mes morceaux, je pense pas forcément tout de suite au titre, hein. Vraiment les morceaux... Ils se font un peu comme ça, ils jaillissent, et puis je pense pas forcément à quelque chose en les composant, mais après, quand il faut trouver un titre, et ben, il y a ce genre de petit clin d'œil qui vient tout de suite. Si j'ouvre cette porte, nous voilà dans l'entrée de la marbrerie. J'adore ce lieu, hein. C'est dans son jus. Est-ce que c'est ouvert au moins? On va voir. J'y suis pas allé aujourd'hui. Oui, c'est ouvert. La salle de concert. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Bon, là, t'as le fumoir à gauche où j'ai passé beaucoup de temps. la salle de concert, et tu vois, c'est pas grand, mais c'est super. Et je vois François là-bas au bout, le taulier. C'est le monsieur qui a monté ce lieu. Ici, passe vraiment plein de choses, quoi. C'est un endroit où tu peux avoir de la musique classique le dimanche après-midi. Avec des petites familles qui viennent avec leurs enfants, et puis la veille t'as un salut. La veille t'auras eu un gros concert de rap avec les gars du coin de Montreuil, et puis le lendemain t'as une conférence d'Alain Damasio, et puis donc il se passe plein de choses, quoi. C'est un endroit vraiment de vie et d'échange avec plein de gens très différents. Ça, c'est super cool. Ça, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que tu sais, moi voilà, comme j'ai mon petit studio là, j'ai vu un peu de tout. Un truc aussi, une expérience qui est un peu nouveau pour moi, mais d'avoir le studio au-dessus d'une salle de concert. Il m'est arrivé plusieurs fois de travailler dans mon studio, et puis voilà, je commence à sentir des basses, je descends, et puis j'arrive, il y a une grosse teuf, tiens, qui est en train de jouer ce soir, bon, et puis je me retrouve complètement pris dans la teuf, alors j'étais censé bosser, mais voilà, j'écoute du son, je bois et tout, et puis je retourne au studio, et là forcément ça influence un peu ma musique, mais c'est intéressant, quoi. C'est pour ça, c'était vraiment cool, quoi, de faire d'avoir un studio au-dessus d'une salle de concert. C'est pas mal pour ça. C'est assez marrant parce que paradoxalement j'ai jamais joué ici. Alors que j'ai joué à peu près partout dans Paris. Mais voilà.
On va revenir.
Bah oui, clair. C'est clair. Ce petit studio dans lequel on est, bah finalement, j'ai pas composé beaucoup de morceaux ici. C'est surtout un endroit où je finalise des morceaux, des maquettes que j'ai composées un peu sur la route et tout ça. C'est plus un endroit où de post-production, j'allais dire.
Peux-tu me décrire un peu ce qu'il y a autour de toi, et notamment sur les murs?
Enfin, c'est mon petit monde, quoi. En fait, un lieu qui me ressemble et dans lequel je me sens bien. Donc, effectivement, il y a plein d'images sur les murs. Il y a plein d'illustrations parce que je suis entouré de dessinateurs. Moi, ma copine est illustratrice, ma sœur est illustratrice. Donc là, il y a les dessins de ma sœur. Là, il y a un dessin de ma copine. C'est les créatures, qui celle qui avait fait la pochette de l'album Créature, mon troisième album. Il y a des dessins de copains, des photos. Il y a une gravure de Gustave Doré que j'adore. Et c'est vrai qu'une image, par exemple, cette gravure de Gustave Doré, c'est une espèce de tempête, de naufrage. Enfin, je trouve ça hyper inspirant, en fait. Quand je suis sur mes machines et que je vois ça m'évoque la tempête, et j'ai envie que ça se ressente dans le son. Là, je pousse les machines vers un son un peu chaotique et tout en regardant ce dessin.
Le ballet musical Room With A View éclate comme un orage, raconte une colère sociale inspirée autant par des émeutes urbaines que par la vague MeToo, annonce la catastrophe climatique à venir. Fruit d'une carte blanche offerte à l'artiste par le Théâtre du Châtelet, le spectacle a été rattrapé par l'actualité, l'épidémie de coronavirus entraînant l'annulation des dernières représentations. Loin d'inciter les gens à se construire des abris anti-atomiques ou à stocker des pâtes et du papier toilette, Ron utilise sa musique comme un catalyseur d'émotions pour faire bouger les lignes et allumer la flamme de l'espoir. En déménageant loin de Paris, ce lecteur de l'astrophysicien Aurélien Barreau et de l'auteur de science-fiction Alain Damasio applique à lui-même une démarche défendue dans Room With A View, ouvrir une nouvelle voie.
Cet album, en fait, c'est marrant, c'est toujours Il traite à la fois, pour moi, il est très personnel, il dit plein de choses. C'est comme comme la plupart de mes albums, mais celui-là, peut-être plus que les autres, il y a un côté très intime où on entend la voix de ma fille dessus. Enfin, il y a plein de choses très, très intimes dedans. Et en même temps, qui veut traiter de sujets universels et de thèmes colossaux qui me dépassent, hein, quand je parlais de l'urgence climatique et tout ça. Enfin, c'est des thèmes auxquels je voulais me frotter et en même temps face auxquels je me sens tout petit, impuissant. Mais voilà, c'était important pour moi de quand même de les évoquer. C'était important pour moi. Et voilà, c'est vrai que peut-être que c'est lié, hein, à un moment donné quand tu te questionnes sur des grands thèmes comme ça, ça bouleverse des choses dans ta vie personnelle aussi. Et là, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on a avec ma petite famille, on a vraiment envie, par exemple là, d'un peu plus de simplicité, on a vraiment envie d'essayer de faire notre potager. On a vraiment envie c'est vrai qu'on a envie d'expérimenter des choses à notre échelle.
Dans un monde écologique intéressant, mais qui soit pas un monde de retour à la bougie. Redéfinir un nouvel imaginaire, c'est-à-dire écrire une nouvelle mythologie et travailler les symboles, c'est le plus important. Parce que beaucoup de nos actions sont mises en œuvre non pas pour ce qu'elles sont, mais pour acheter le regard de l'autre.
Si tu passes pas par des percepts, par des affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par l'art, alors ton comportement va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout un coup, ta perception...
Je veux pas me présenter comme un artiste engagé ou je sais pas. Enfin, ça a pas vraiment de sens. Mais au moins essayer de mettre. Ce qui est important pour le coup pour moi, c'est d'essayer maintenant de mettre du sens dans mon travail. Ce qui est pas évident, sachant encore une fois que je suis un musicien. Déjà un musicien, tu vois, je dirais un bricoleur. Je bricole de la musique électronique, donc c'est de la musique instrumentale. Encore une fois, donc c'est réfléchir à comment. Comment à ma petite échelle je peux faire quelque chose. Pour moi, ça passe par les collaborations justement avec des gens comme Aurélien Barraud ou Alain Damasio, mais aussi comme La Horde, qui est un collectif d'artistes qui, pour le coup, j'allais dire, est super engagé. Enfin voilà, eux, ils sont vraiment des artistes engagés parce que vraiment ils sont impliqués à 200% dans plein de causes, et surtout ils arrivent à exprimer avec talent leurs idées à travers de l'art, tu vois, enfin à travers la danse. Moi j'ai réalisé ça là vraiment, c'est que tu peux exprimer plein de choses avec la danse. Tu peux faire passer des messages très très forts et peut-être de manière beaucoup plus impactante qu'un long discours.
Tu as dit que tu étais bricoleur. Je te revendique pas du tout musicien.
Disons que si de plus en plus quand même, hein, si maintenant je me présente quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, qui me connaît pas, je et qui me demande ce que je fais dans la vie, je dis musicien maintenant. Mais j'ai mis du temps avant de l'assumer, de le dire, parce que bon, c'est une espèce de complexe, hein, du mec qui a pas fait le solfège, qui sait toujours pas lire la musique, hein. C'est pour ça que je dis que je suis bricoleur, c'est que vraiment j'ai une manière bien à moi, bien particulière de faire de la musique en fait, et voilà. Mais c'est vrai que en fait maintenant c'est un peu ridicule, c'est une espèce de coquetterie, parce qu'en vérité moi c'est des mecs comme Gaspard Claus le violoncelliste, ou Bryce Dessner le guitariste de The National, c'est des mecs avec qui j'ai bossé et qui m'ont tout de suite remis en place en me disant mais attends, on est en train de faire de la musique là, t'es musicien, y a pas de chichi, et ils ont raison. Enfin voilà, au final je fais des concerts, je fais de la musique, donc je suis musicien, c'est aussi simple que ça. Mais non, mais disons que c'est je suis pas musicien très classique, dans le sens où, encore une fois, je sais pas lire la musique et que voilà, c'est... Pardon, j'éteins mon téléphone qui bip depuis tout à l'heure. Tu vois, je t'avais dit, hein, s'isoler, isoler à Lille.
Avant de laisser le musicien bricoleur à ses cartons, je lui ai demandé de démonter, piste par piste, le morceau Human, sur lequel on peut entendre notamment la troupe de danseurs du collectif La Horde. Place à la masterclass.
C'est un morceau qui se crée à partir de cette espèce de boucle. Que j'ai produit avec un synthé, donc quelque chose de très électronique au départ, comme ça. Qui monte doucement. C'est typiquement le morceau où je sais pas exactement où je vais, Il y a un truc qui prend forme. Je rajoute des couches électroniques, donc il y a cette espèce de petite loupe aussi. Très simple, fait sur un synthé, et qui a aucun sens toute seule, mais qui fait tout quand elle se superpose au reste. Et donc cette espèce de petite gimmick, de petite mélodie entêtante, qui reste dans ma tête comme ça, pendant des jours, des nuits, à un moment donné, je me dis, putain, mais là, j'aimerais bien l'entendre chanter, quoi. J'aimerais bien l'entendre chanter, et je me dis, putain, mais j'ai 18 danseurs sous la main, il faut que je les fasse chanter, quoi. Et donc, je m'enregistre tout seul avec César, mon pote Cubanks, qui était au studio à ce moment-là. On s'enregistre tous les deux, faire la la la, la la la. Et puis, j'arrive avec ce petit enregistrement, et je demande aux danseurs de chanter, quoi. Et je les dirige un peu en leur disant de commencer très, très doucement, en murmurant. Mais comme ils sont 18, ça prend tout de suite de l'ampleur. Et à partir de ce moment-là, le morceau bascule dans autre chose, devient beaucoup plus organique, ce qui me plaît beaucoup. Et là, je fais appel à mon copain Romain Allender, qui est un arrangeur d'orchestre, avec lequel j'ai pas mal travaillé déjà. Un super arrangeur d'orchestre qui travaille avec Alexandre Desplat, qui fait beaucoup de musique de film. Et je travaille avec lui pour développer cette mélodie de manière orchestrale. Et voilà, et là le morceau s'ouvre et tout ça. Et c'est le genre de moment que j'adore. Donc il y a les 18 danseurs, l'orchestration de Romain, tout ça. Et puis voilà, c'est le moment où le truc te dépasse, cette impression de t'envoler. Ça c'est cool, c'est un bon souvenir, la création de ce morceau.
Demain, Jonathan vous dévoilera ses conseils pour rester seul au monde face à un écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler musique et sexe. À bientôt.